Vous écoutez RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
Anne Contenaire.
RFI midi, suite et fin, nous sommes sur le continent américain pendant la prochaine demi-heure. Nous irons en Haïti où le conseil présidentiel de transition a enfin été installé hier. Vous entendrez le reportage de notre correspondante qui a assisté à la cérémonie et puis on parlera des enjeux, des défis qui attendent maintenant les nouvelles autorités haïtiennes avec le politologue Jacques Nézy. Nous parlerons aussi de l'actualité des Outre-mer comme chaque jour. Benoît Ferrand, plusieurs milliers de paires de lunettes collectées en Martinique ont pris la direction de l'île Sainte-Lucie.
Oui, c'est le fruit d'une collecte menée par les élèves d'un collège et le Lions Club à destination des malvoyants de l'île de Sainte-Lucie.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes et puis on entendra aussi, comme chaque vendredi, notre chronique musicale consacrée à la campagne aux États-Unis avec les auteurs du livre Rock'n Road Trip.
RFI Midi.
Mais avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Et d'abord, Stéphane Jeunesse, la mobilisation pro-palestinienne des étudiants qui prend de l'ampleur aux États-Unis et en France.
Et oui, à Paris, par exemple. Anne, où depuis hier soir, le campus historique de Sciences Po est occupé par des dizaines d'étudiants. Mouvement, vous le disiez, qui vient des États-Unis, de l'Université de Columbia à New York. Il s'est propagé à de nombreuses facs du pays et les arrestations se multiplient contre les manifestants qui dénoncent la guerre menée par Israël à Gaza. Côté politique, ça fait réagir. Donald Trump qualifie ces rassemblements de honte. Le ténor républicain au Congrès, Mike Johnson, lui, fustige le virus de l'antisémitisme qui se propage sur les campus du pays. Mais il y a aussi des soutiens à ce mouvement, celui notamment de Bernie Sanders. Bonjour Abla Jounaidi.
Bonjour.
Un soutien de poids de l'ancien candidat à la présidentielle qui s'est directement adressé à Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien.
Oui, le sénateur du Vermont est une figure majeure de la gauche aux États-Unis, populaire auprès des jeunes, notamment ceux qui manifestent sur les campus. Il avait déjà dénoncé cette guerre qu'il juge immorale. Bernie Sanders est aussi juif. Cela donne d'autant plus de force à son message adressé hier au premier ministre israélien.
Mr. Netanyahou.
Monsieur Netanyahou, l'antisémitisme est une forme ignoble et dégoûtante de sectarisme qui a causé un tort indescriptible à des millions de personnes. Mais n'insultez pas l'intelligence du peuple américain en tentant de nous distraire des politiques de guerre immorales et illégales de votre gouvernement extrémiste et raciste. N'utilisez pas l'antisémitisme pour détourner l'attention des poursuites pénales dont vous faites l'objet en Israël. Il n'est pas antisémite de vous tenir pour responsable de vos actes.
Voilà une réponse à Benjamin Netanyahou qui avait dénoncé effectivement les manifestants et les ayant accusés d'antisémitisme. Dans cette vidéo également, Bernie Sanders se fait le porte-voix des manifestants en rappelant le lourd bilan de l'offensive israélienne lancée il y a 6 mois. Mais voilà des semaines qu'il n'hésite pas à interpeller directement Joe Biden sur sa responsabilité morale dans la guerre. Il a récemment porté une résolution pour conditionner le soutien américain à Israël au respect des droits humains. En vain.
Les explications d'Abla Jounaidi du service international de RFI. On évoquait ces rassemblements étudiants. Ils font aussi réagir le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il estime que cela fait, je cite, « partie de la démocratie ». Le chef de la diplomatie américaine qui est en Chine, lors de sa rencontre avec Xi Jinping, Anthony Blinken a expliqué que la Chine pouvait aider à apaiser les tensions au Proche-Orient, selon ses termes. La discussion avec le président chinois où les progrès entre les deux pays ont été salués, même si de nombreux problèmes devaient encore être résolus. Fin de citation.
Les États-Unis qui s'attaquent aux clauses de non-concurrence dans les contrats de travail du pays.
Et c'est une petite révolution dans le marché du travail américain. La FTC, l'autorité de la concurrence aux États-Unis, a décidé de mettre fin à ces clauses, des clauses qui restreignaient fortement le passage des salariés d'une entreprise à l'autre dans le même secteur. Et pour comprendre l'ampleur de ce changement, Nathanaël Vitran, ce qu'il faut savoir, c'est que ces clauses de non-concurrence concernent 1 salarié sur 5 aux États-Unis.
À l'origine, ces clauses dans les contrats de travail existent pour empêcher que des cadres de très haut niveau travaillant dans des secteurs sensibles ne passent à la concurrence en emmenant avec eux des informations confidentielles ou stratégiques. Elles imposent un délai à un salarié avant de prendre un emploi chez un concurrent direct. Ces clauses sont courantes dans le droit des affaires, les hautes technologies, la finance. Mais petit à petit, on a observé des abus. Les employés de chaînes de restauration rapide se sont ainsi retrouvés légalement empêchés de changer d'employeur librement. À une époque pas si lointaine, il leur était même interdit de travailler pour un autre restaurant d'une même chaîne de fast-food. Autre effet pervers soulevé par la FTC, des soignants ont parfois été obligés de quitter la profession alors que les besoins en médecins et en infirmiers sont criants dans de nombreuses régions rurales. En empêchant la main-d'œuvre de bouger, en la maintenant captive, on l'empêche aussi de négocier un meilleur salaire en allant voir ailleurs. La FTC estime qu'au total, les salariés américains ont perdu 300 milliards de dollars par an. Les entreprises ont jusqu'au mois d'août pour se conformer à la nouvelle règle.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI au sujet de ce changement majeur aux États-Unis.
Et c'est un autre changement qui fait l'actualité au Chili, le temps de la semaine de travail.
Elle va progressivement passer de 45 à 40 heures. La mesure entre en vigueur aujourd'hui, vendredi. Le pays qui rejoint ainsi l'Équateur et le Venezuela, les seuls en Amérique latine à avoir adopté la semaine de 40 heures. Mais au Chili, plusieurs structures et entreprises n'ont pas attendu cette loi pour diminuer leur temps de travail. Illustration dans une crèche dans l'est de Santiago, la capitale, avec Naila Darwani.
Dans cette crèche privée, la semaine de 40 heures a été mise en place il y a 3 ans, raconte Andrea Ibaceta, directrice de l'établissement, qui compte 6 employés, toutes des femmes.
On travaille par tour. La première arrive à 7h du matin et termine à 16h30. Et la dernière commence à 10h30 et finit à 19h30.
C'est une question de volonté et d'organisation, affirme Andrea, qui avant d'ouvrir sa crèche, travaillait dans le public 45 heures par semaine, difficilement compatible avec sa vie de famille.
J'arrivais chez moi à 19h30. En plus, je travaillais dans le centre, donc avec les transports, c'était un supplice. Je ne profitais pas de mes enfants. Alors j'ai quitté mon travail et c'était important pour moi que mes futurs employés puissent aussi avoir du temps pour être avec leur famille.
Mais aussi avoir du temps pour soi. C'est ce qu'apprécie Sandra, éducatrice pour enfants depuis 35 ans. Elle a travaillé toute sa vie à 45 heures. Les 40 heures, c'est donc une petite révolution.
J'en profite pour faire des démarches administratives. C'est plus simple aussi pour prendre rendez-vous chez le médecin. Ou même pour aller rendre visite à une amie, je sors plus tôt du travail. Et le week-end est un peu plus long. J'ai plus de temps pour moi, pour me reposer.
La réduction du temps de travail va être mise en place petit à petit pour finalement atteindre la semaine de 40 heures en 2028. Naila Derouane, Santiago, RFI.
Enfin, direction Athènes, Stéphane, où l'on se prépare à dire au revoir à la flamme olympique.
Allumée il y a 10 jours en Grèce, ça y est, elle est sur le point de quitter sa terre olympique pour en rejoindre une nouvelle, la France. Cette torche qui va officiellement être remise au comité d'organisation de Paris 2024 avant d'arriver le 8 mai prochain à Marseille. Et en attendant le début des compétitions, les athlètes et les para-athlètes se préparent comme Nassos Gavelas, athlète non-voyant. Il détient le record du monde du 100 mètres dans sa catégorie et Joël Bronner l'a rencontré pour RFI Reportage.
Sur le dos, Nassos Gavelas soulève un haltère de 200 kilos. L'heure est au travail musculaire dans les locaux du Centre athlétique olympique d'Athènes. Le sprinteur non-voyant suit les consignes de celui qui est son entraîneur depuis maintenant près de 8 ans, Nestoras Kolovos.
C'est la même préparation qu'avec un athlète valide. La seule différence, c'est que Nassos a besoin d'un coureur à ses côtés. Il ne peut pas courir seul. Sous ma direction, Nassos a remporté une fois les mondiaux et deux fois les championnats d'Europe d'athlétisme en e-sport sur 100 mètres. Il a aussi terminé premier aux Jeux paralympiques de Tokyo en établissant un nouveau record du monde.
10 secondes 82, voilà le record établi sur 100 mètres par l'athlète de 24 ans dans la catégorie T11, celle des sportifs avec une cécité totale. Les coureurs y sprintent avec un bandeau sur les yeux et donc un coureur guide rattaché par le poignet qui les aide à maintenir une course en ligne droite. C'est Théodoris Vrontinos qui est depuis un mois seulement son nouveau guide. Ensemble, ils espèrent bien goûter rapidement à la victoire. Nassos Gavelas.
Là, on s'entraîne d'abord pour les championnats du monde de para-athlétisme de Kobe au Japon en mai. Pour les Jeux paralympiques, on est calme, concentré et on vise le meilleur résultat possible.
Objectif, la première place bien sûr. Joël Bronner, Athènes RFI.
À Athènes, il est 16h09, 9h09 à Port-au-Prince. L'heure de vous retrouver, Anne Cantner, le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Stéphane Genest.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La Maison-Blanche parle d'une étape cruciale en Haïti. Le Conseil présidentiel de transition a enfin été investi hier au cours de deux cérémonies. La première, en tout petit comité et au son des tirs au Palais National. Puis la seconde officielle est devant la presse à la villa d'accueil destinée habituellement au Premier ministre pendant que les gangs, eux, maintenaient la pression dans différents quartiers de Port-au-Prince. Notre correspondante Marie-Andrée Bellange était sur place pour RFI.
Sur la route menant à la villa d'accueil, un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour accueillir les invités, dont des membres du gouvernement sortant et des diplomates. Seuls les véhicules autorisés pouvaient franchir le périmètre de sécurité. C'était un moment très attendu par les Haïtiens, fatigués de vivre sous le règne des gangs armés. Pour certains d'entre eux, l'installation du Conseil présidentiel de transition ouvre la voie à une solution à la crise. Les Haïtiens attendent des résultats. Le Conseil en est conscient, explique Frenel Joseph, l'un des observateurs de cet organe de transition.
Dans le discours que la seule femme du Conseil avait présenté, nous avons exactement parlé des 5 grands chantiers sur lesquels nous allons travailler. Donc, on va se mettre rapidement au travail.
L'urgence, c'est de rétablir la sécurité dans le pays. Pour ce faire, la communauté internationale, notamment le bureau des Nations Unies sur place, se tiendra aux côtés de ce Conseil présidentiel de transition, a déclaré sa représentante Maria Isabel Salvador.
Eh bien oui, on est là pour appuyer le gouvernement. C'est notre rôle en tant que Nations Unies. N'importe quel gouvernement qui soit en place, nous, Nations Unies, nous sommes là pour soutenir, pour appuyer, pour renforcer le travail du gouvernement.
Reste maintenant ce Conseil présidentiel de transition à mettre en place un gouvernement. Une équipe censée rendre le pouvoir en février 2026, après des élections. Marie-Andrée Bellange, Port-au-Prince, RFI.
Voilà donc pour la cérémonie officielle qui s'est tenue à Port-au-Prince hier. Cérémonie au cours de laquelle Régine Abraham, membre observatrice de la nouvelle instance, a pris la parole. C'est elle qui avait été désignée pour présenter les grandes lignes de l'action à venir du Conseil présidentiel de transition.
La population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, le Conseil présidentiel s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Aujourd'hui ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti.
Et pour parler de cette entrée en fonction et des nombreux défis qui attendent le Conseil présidentiel de transition, nous recevons maintenant le politologue haïtien Jacques Nézy, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. C'était une surprise, hein, cette première cérémonie à la présidence hier matin. C'était un pied de nez aux gangs, selon vous ?
Oui, il y a une manœuvre qui a été bien orchestrée par les protagonistes du Conseil présidentiel, puisque dans un premier temps, ça a été annoncé à la villa d'accueil, au bureau du Premier ministre. Même les journalistes ont été pris de court, n'ont pas été invités et à cette cérémonie. C'est dire que tout l'enjeu qu'il y avait autour de cette cérémonie, puisque depuis quelques semaines, les gangs n'arrêtent pas d'entretenir des tirs nourris autour du palais national, on dirait. Et c'est le principal objectif de ces gangs, mais l'installation a pu se dérouler dans les conditions que vous avez rappelé.
Mais on d'ailleurs, peut ça, dire a été aussi, le cas, ça a été le cas encore hier. On a entendu encore des tirs, d'ailleurs, au moment de la cérémonie, la petite cérémonie qui se tenait au Palais National. Et puis les gangs ont semé la terreur hier encore dans plusieurs quartiers pour maintenir de nouveau ce climat de tension que vous évoquiez à l'instant. Pourquoi ?
Oui, parce que depuis quelque temps, on a bien vu les gangs sont passés à une autre étape dans leur occupation du territoire, notamment de la capitale. C'est depuis plus de 2 mois, ils ont ont pu sans doute, d'après eux, obtenir gain de cause après avoir pu empêcher le retour du Premier ministre qui a démissionné, Ariel Henry, le 29 février en Haïti. Donc ils pensent qu'ils ont pu gagner du terrain. Et puis, deuxième élément, ils n'arrêtent pas de construire toute une stratégie autour d'une ambition qui est plus ou moins affirmée aujourd'hui d'occuper le palais national. Donc, autrement dit, les gangs aujourd'hui, eh bien, quelque part, sont en situation de chantage, et étant donné qu'ils sont timorés par l'arrivée sans doute imminente d'une force internationale, et puis deuxièmement, ils ont été aussi affaiblis par quelques espaces conquis par la police nationale. La police nationale, malgré ses faibles moyens, a pu quand même, depuis plus de 3 semaines, et mettre en difficulté ces gangs qui n'ont pu atteindre leur objectif qui était le palais national.
Alors, vous nous parliez de la démission d'Ariel Henry. C'était effectivement quelque chose que les gangs demandaient. Elle a été entérinée hier dans un document signé par le Premier ministre sortant. Et dans ce document, il choisit un Premier ministre par intérim, Michel-Patrick Boisvert. Je vous propose d'écouter ses premiers mots hier lors de la cérémonie.
L'heure est grave. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés. Celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous, afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité.
Voilà les premiers mots du Premier ministre par intérim Michel-Patrick Boisvert. Alors, en principe, le Conseil présidentiel de transition devait choisir son président dans la foulée, juste après l'installation, mais ça n'a pas été le cas, Jacques Nézy. Plusieurs de ses membres ont indiqué au journal Le Nouvelliste qu'il le ferait prochainement, mais sans donner de date. Est-ce qu'il faut y voir un signe, déjà, de la difficulté qu'il pourrait avoir à s'entendre ?
Oui, on peut y voir l'interpréter en ce sens, dans la mesure où c'est un attelage assez difficile, complexe, fragile, puisque ce Conseil et présidentielle à 3 difficultés. La première est liée même à sa construction, on peut dire, c'est sa construction même, c'est-à-dire composée des différents protagonistes qui n'ont jamais pu s'entendre précédemment, puisqu'il faut le rappeler, il y a eu plusieurs rencontres à Kingston où la CARICOM a cherché une entente, un compromis entre les différents en protagonistes, et ces protagonistes revenaient bredouilles de Kingston. Donc, on peut dire quelque part, c'est quelque chose de positif, le fait d'avoir pu parvenir à la formation de ce Conseil présidentiel. Et la deuxième difficulté, c'est que ce sont des acteurs qui, non seulement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, étaient toujours en inimitié les uns avec les autres, mais c'est que convoitent le pouvoir aux prochaines élections. Et puis de l'autre, troisième élément, ce sont eux aussi qui sont responsables de la catastrophe aujourd'hui. Par exemple, le secteur privé, on sait que le secteur privé a des relations très incestueuses avec les gangs. Et puis il y a aussi quelques membres de ce Conseil présidentiel qui ont aussi eu des relations incestueuses avec les gangs. Donc on voit toute la difficulté. Et quand on sait aussi en Haïti, accéder au pouvoir, c'est aussi une porte ouverte vers l'accumulation de richesses matérielles en toute impunité. Et ces partis qui sont membres du Conseil présidentiel vont concourir aux élections, c'est-à-dire ils ont besoin.
Alors ces élections, justement,
ressources.
Elles sont prévues au début de l'année 2026. C'est crédible ce délai selon vous ?
Ça va être très difficile parce qu'il y a tout un ensemble d'étapes avant de parvenir à la réalisation de ces élections. Premièrement, la pacification de la société haïtienne, je la reviens à dire, a non seulement à mettre à genoux les gangs. Certains parlent d'amnistie, mais qui est inacceptable sur le plan de morale. Et ensuite, désarmer, réinsérer. Et puis ensuite, il faut mettre en place la réconciliation nationale à travers une politique, de réconciliation, comme ils l'entendent. Ensuite, ils ont une feuille de route assez compliquée, par exemple la mise en place d'une assemblée constituante pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Donc, ces trois étapes sont les préalables nécessaires. Et puis ensuite, la police nationale et les forces armées d'Haïti n'ont pas les moyens suffisant pour répondre à la puissance de feu des gangs, forcément, la communauté internationale serait obligée d'intervenir et d'accompagner.
Et pour cela, il y aura notamment la mission multinationale qui doit être dirigée par le Kenya. Le président kényan a réagi, hein, justement, il a publié hier un message sur Twitter. Lui assure que son pays met le cap sur le déploiement de ses troupes. Il dit que le Kenya est prêt, de concert avec des nations d'Afrique et de la CARICOM, à mettre cette mission en œuvre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Jacques Nézi, pour analyser donc ces défis qui attendent le nouveau Conseil présidentiel de transition. Toujours à propos d'Haïti, un signe supplémentaire de la violence qui règne à Port-au-Prince. Des bandits ont attaqué, pillé les locaux du célèbre journal Le Nouvelliste. Vous entendez chaque jeudi sur cette antenne son rédacteur en chef. Ils en ont profité pour vandaliser les équipements, écrit le journal ce matin, emporter le mobilier et les matières premières nécessaires à l'impression du journal. Le Nouvelliste évoque un horrible méfait aux conséquences graves et il informe que le temps de se remettre d'aplomb, il informera sur son site en version numérique. RFI Midi. L'actualité des Outre-mer à présent. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Plusieurs milliers de paires de lunettes collectées en Martinique ont pris la direction de l'île de Sainte-Lucie.
Plus de 4000 paires qui seront remises au gouvernement de Sainte-Lucie et à une association d'aveugles et de malvoyants. C'est le fruit d'une collecte menée pendant un an par le Lions Club de Martinique et les élèves du collège Édouard Glissant au Lamentin. C'est la troisième opération de ce type. Jean-Marie Jeunhomme est le président du Lions Club de Martinique. Il est au micro de Fabienne Léonce.
L'an dernier, on a voulu aller faire la remise des cartons à Sainte-Lucie, voir les lunettes qu'on donne, qu'est-ce qu'elles deviennent, comment elles sont utilisées. Et donc, il y a une délégation qui est déjà partie l'an dernier. Cette année, on a encore voulu donner de l'ampleur à cette collecte. Et donc, aujourd'hui, on a une délégation de 16 personnes qui part à Sainte-Lucie, qui va être accueillie par le gouvernement de Sainte-Lucie, l'association des aveugles de Sainte-Lucie, qui travaille pour le compte du gouvernement, qui a une unité de retraitement des lunettes. Donc, ils vont récupérer toutes les montures et lunettes qu'on leur amène. On en a 4248 qui ont été collectés en Martinique. Donc grâce à ces lunettes qui sont collectées, on va pouvoir permettre à beaucoup de gens à Sainte-Lucie qui n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes, de pouvoir bénéficier de lunettes qui vont être remesurées pour pouvoir être données aux gens en fonction de leurs problèmes de vue.
On reste en Martinique avec Odyssey, la régie d'eau et d'assainissement de la communauté d'agglos du centre de la Martinique. Elle a fait le point hier sur les problèmes causés par la sécheresse. Pour le président d'Odyssey, Yvon Paquit, il existe des solutions pour satisfaire les besoins en eau potable de la population. Mais le stockage de l'eau évoqué par certains, eh bien, selon lui, ça ne fait pas du tout partie des bonnes solutions.
Pendant toute l'année, nous avons plus d'un milliard de mètres cubes d'eau qui tombent sur la Martinique. Nous utilisons prioritairement les eaux de surface des rivières. Stocker l'eau brute, cela signifie qu'il faudrait faire des méga barrages. On en a même recensé près de Madiana. Vous mettez un grand mur, un grand barrage et vous stockez l'eau. Vous voyez un peu les conséquences environnementales pour la population, les problèmes d'hygiène, de moustiques, de solidité. À mon avis, on fait ça quand on n'a pas d'autre solution. Le stockage, je ne suis pas d'accord. Deuxième solution, stocker l'eau traitée. Les gens disent, ah ouais, multiplier les réservoirs. Mais non, l'eau potabilisée a une durée de vie de 48 heures. Quand on place des réservoirs, c'est tout simplement pour que l'eau puisse descendre chez les abonnés. Ce n'est pas pour le stockage, c'est pour avoir de la pression. On ne peut pas utiliser les réservoirs pour stocker l'eau potable. 48 heures, c'est fini. Sinon, les micro-organismes risquent de se redévelopper dans l'eau.
Yvon Paquit, président d'Odyssey, au micro de Christine Cupit. Bon après-midi, bon week-end, Anne. À lundi.
Merci Benoît Ferrand et bon week-end. On vous retrouve donc lundi. Merci à tous d'être avec nous. Comme chaque vendredi maintenant, notre plongée au cœur des États-Unis dans la campagne électorale en musique avec les auteurs du livre Rock'n'Road Trip. Aujourd'hui, Julien Grosso, il évoque l'Arizona avec Julien Coquelroem.
Hotel
Direction les grands espaces de l'Ouest américain, Julien.
Et oui, ce matin, je vous propose de faire étape en Arizona en compagnie de Wilco, un groupe de country rock à tendance alternative, pas du tout originaire de l'Arizona, mais de Chicago, et qui signe en 1996 cette chanson intitulée Hotel Arizona, dont le titre, figurez-vous, est un clin d'œil à l'inoxydable Hotel California des Eagles.
Évidemment, et l'Arizona, c'est un des États voisins de la Californie d'ailleurs.
D'où la référence, et c'est bien sûr un des États incontournables des road trips sur la côte ouest, pour une raison en particulier. C'est là que se trouve le Grand Canyon, un des symboles, s'il en est, de l'Ouest américain, devenu la vitrine et la principale attraction de l'Arizona.
Au point de lui offrir son surnom de Grand Canyon State.
Oui, même si naturellement, on ne peut pas résumer l'Arizona au Grand Canyon.
L'Arizona, ce sont des paysages extraordinaires, traversés par la plus mythique des routes.
Et oui, la Mother Road, la route 66, qui trouve ici, en se rapprochant de la Californie, ses portions les plus fameuses. Et des villes-étapes légendaires, au premier rang desquelles Winslow, une localité minuscule rendue célèbre par la chanson Take It Easy des Eagles. Et puis il y a Flagstaff et Kingman, des jalons vers l'Eldorado californien, cités dès 1946 dans une chanson signée Bobby Trapp et d'abord interprétée par Nat King Cole.
Mais là, c'est les Rolling Stones. Une chanson devenue presque aussi célèbre que son sujet et dont s'empareront bientôt les grands noms du rock.
Parmi lesquels Chuck Berry, le father of rock and roll, qui la reprend en 1961, suivi trois ans plus tard donc par de jeunes Rolling Stones, puis par des dizaines d'artistes de Tom Petty à Depeche Mode. C'est comme ça que la Mother Road a enfanté la mère des Road Songs.
Voilà, on entend des paysages à couper le souffle, la route 66, mais Julien, rassurez-nous, il y a quand même quelques grandes villes en Arizona.
Évidemment, dont Tucson, près de la frontière mexicaine, chantée avec un certain retentissement par les Beatles en 1969 dans Get Back. Et puis bien sûr Phoenix, la grande métropole de l'Arizona, mais ces villes se méritent car il faut faire du chemin et même traverser des déserts pour les atteindre.
C'est tout le propos d'ailleurs de Glen Campbell qu'on entend. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. By the time I get to Phoenix, Julien, c'est un monument.
Et comment ? C'est un monument offert par Jimmy Webb, l'auteur de la chanson, à son chanteur favori, Glen Campbell, mais aussi un monument offert à la ville elle-même.
Une ville qui sera le cœur de l'enjeu électoral en novembre.
Rendez-vous compte, sur les 7 millions d'habitants que compte l'Arizona, les deux tiers habitent dans l'agglomération de Phoenix, une ville qui a poussé comme un champignon au XXe siècle, en plein désert, grâce à la démocratisation de la climatisation. Et oui, l'agglomération comptait moins de 200 000 habitants en 1940, elle en compte aujourd'hui 4,5 millions.
Vertigineux.
She'll probably stop at lunch and give me a call. L'Arizona et Phoenix en particulier sont une conquête de l'homme sur le désert et sur l'aridité. Il attire les retraités des États du Midwest qui viennent y chercher du soleil, mais aussi les entreprises de pointe qui elles-mêmes séduisent les jeunes diplômés. Mais le boom de la ville entretient un écosystème économique beaucoup plus vaste. L'industrie et les services drainent aussi de la main-d'œuvre peu qualifiée, hispanique notamment, car rappelons que la frontière mexicaine n'est pas loin.
Des jeunes, des moins jeunes, des riches, des pauvres, avec une telle sociologie, tous les ingrédients sont réunis pour un scrutin à suspense.
Oui, d'autant que fin 2022, c'est une gouverneure démocrate, Kathy Hobbs, qui a été élue en Arizona. Elle a mis fin à 14 ans de mandature républicaine. La question est maintenant de savoir si Joe Biden pourra profiter de cette dynamique. Car les républicains sont animés d'un esprit de revanche après la victoire de Biden de 2020 qu'ils jugent illégale ou même volée.
Rendez-vous donc le 5 novembre et avant cela, bien sûr, la semaine prochaine pour la suite de notre voyage à travers les États-Unis de 2024. En musique, nous serons dans un autre état clé, le Nevada, Julien.
À vendredi prochain.
À vendredi prochain et merci. And she'll cry
just to think I'd really leave her.
Merci à tous d'écouter RFI. RFI Midi se termine pour aujourd'hui. À la réalisation ce vendredi, Yann Eligouin. Restez avec nous dans quelques secondes, Littérature sans frontières. Et nous, on se retrouve lundi à 11h, temps universel. She just didn't know.